we think. Organize the hood under our chain banners. Red, black, and green instead of gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And them hitting cameras in the street like watching society. With no respect for the people's right to privacy. I take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live, able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter là. Faut...
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis. Les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures. Je suis chômeur. Je suis pointé.
Bonsoir, nous sommes le lundi 23 janvier. Il est très exactement 19h04 et c'est le Canu Info du lundi. Vous êtes toujours sur la plus rebelle des radios, Radio Canu.
Alors, international, on va partir, comme on ne peut pas passer à côté, aux États-Unis avec l'investiture de Trump et revenir sur toutes les manifestations qui en font de lui le président le plus impopulaire avant même d'avoir commencé son mandat. On va aller faire un tour au Yémen pour voir les dernières actualités de la guerre civile sur place et on va finir par un tour, on va revenir en Amérique du Sud, en Équateur, où un certain nombre de manifestants séquestrent des filles pour demander plus de revenus.
Au national.
Oui, au national, on aura d'abord un sujet sur le défilé anti-avortement à Paris. Puis, on parlera de la garde à vue de Cédric Héroux, parce qu'il en a fait une deuxième. Et ensuite, on vous parlera des primaires de la gauche.
Et en local, le PS lyonnais se range derrière Macron. Prena va-t-il échapper à la justice ? Et Faf Boxe, salle de boxe montée par les fachos à Lyon.
Et on finira par le traditionnel agenda.
Alors, vous noterez qu'on a réussi à se débarrasser du présentateur habituel, qu'on a quand même laissé une phrase. Du coup, à l'international.
L'investiture de Trump. Alors, je ne vais pas parler de la grande messe médiatique de Trump, ou très peu, mais du réveil des anarchistes, We Are Limousine, vitre du McDonald's, de la Bank of America et du Starbucks cassé, grand symbole du capitalisme, et surtout sur les murs, des graphes Revolution or Dead, l'investiture de Donald Trump ne serait-il pas le réveil des anarchistes anticapitalistes ? Richard Spencer, suprémaciste blanc reconnu, se prend une bonne patate, et ça c'est bon. Et des gros pains de soupe asperger d'eau avant le dîner. Ne soyons pas médisants, Trump fédère. Noir, latino, écolo, femme, et oui, il rassemble derrière lui, contre lui, et surtout, cerise sur le gâteau, une banderole, no border, no nation. Les anarchistes américains sortent de leur tanière et prennent d'assaut la rue. Ayons de l'humour, revenons sur quelques brides de son discours. Donald Trump promet une rupture avec le passé, comme tout bon président avant et après lui. Rien de neuf sous le soleil. Mais surtout, l'Amérique d'abord. À partir de ce jour, ce sera uniquement l'Amérique d'abord, martèle-t-il, idée fixe en tête en aboyant dans les micros. Un slogan fasciste de haute envergure qui nous replonge dans l'Amérique des cagoules pointues blanches. N'ayons pas peur de lui face à une résistance populaire des Américains. Trump ne pourra rien. Donc, allez les Amerlocs, résistez. Nous, on est là en soutien.
Oui, d'ailleurs, il y avait du monde à Lyon aussi contre Trump. Il y a une marche samedi.
300 personnes.
Eh oui. Et partout dans le monde, hein, il y a eu quand même des grosses mobilisations.
600 manifestations dans le monde entier, quand même. Quoi. C'est quand même, il a, comme je l'ai dit en intro, il a battu le record du président le plus impopulaire avant même d'avoir démarré son mandat. C'est quand même pas mal.
Bravo, Trump. Alors, au Yémen, presque tout le monde le sait, il y a une guerre impérialiste, depuis toujours, mais plus virulente depuis mars 2015. Alors, comme c'est une colonisation entre musulmans, la presse française n'en fait pas un drame. Surtout que les méchants dans l'histoire sont représentés, entre autres, par le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, pays pacifique s'il en est, auquel la France a vendu très dernièrement une chier d'armes de destruction massive, Coco Frico. Cette guerre, si on peut appeler des montagnards qui résistent à une coalition internationale une guerre, a fait, d'après l'ONU et Ismaël Ould Cheikh Ahmed, 10 000 morts, déjà, dont 1 400 enfants. Comme d'habitude, les grands schémas de l'impérialisme se retrouvent. Une population locale en butte à des élites tirées de la minorité bourgeoise, en l'occurrence, le président Abd Rabo Mansour Hadi, et de l'autre côté, une population colonisée qui, devant l'incurie de ces élites et du gouvernement fantoche soutenu par les puissances étrangères, la coalition menée par l'Arabie Saoudite, se révolte. Avec succès, puisqu'ils sont le peuple, ils sont sur place, ils mettent en place une guerre révolutionnaire de guérilla, et ils sont donc réprimés par l'ensemble de la communauté internationale. Alors le Yémen, pourquoi est-ce que cette guerre ne fait pas la une de la presse française ? Entre autres parce que ces gens-là sont bombardés par nos rafales, et surtout que ce Yémen contrôle les grands détroits du passage de Suez. C'est-à-dire que, vu que l'Asie aujourd'hui fabrique 80% des produits manufacturés du monde, tout notre commerce passe par là. Et la grande info du jour, c'est que les forces colonialistes menées par l'Arabie Saoudite ont repris le port stratégique de Mocha, devant lesquels tous les porte-conteneurs passent. Et il suffit effectivement à ces Yéménites de poser quelques canons sur leur montagne pour mettre en danger tout le trafic de marchandises de l'Asie jusqu'à l'Europe. Donc, c'est pas fini. Courage aux Yéménites qui se rebellent avant tout pour un système politique plus juste, avec une représentation plus équitable des différentes minorités qui sont sur place. Et haro sur la presse française qui, encore une fois, sélectionne le crime et la guerre quand ça l'arrange.
Oui, qui le sélectionne aussi. On va vous parler un peu de ce qui se passe en Équateur, puisqu'on n'en a pas du tout entendu parler dans la presse mainstream, ou quasiment pas. En fait, depuis le mois de décembre, il y a des gros affrontements entre une communauté indigène, donc les Chouars, qui s'opposent en fait à une exploitation minière détenue par une entreprise chinoise dans la province de Morona Santiago, donc c'est au sud-est de l'Équateur. Et donc cette communauté indigène revendique la possession de ces terres qui sont qui appartiennent à la communauté depuis très longtemps, depuis toujours. Du coup, ils demandent en fait à récupérer ces terres et surtout ils s'opposent à l'exploitation minière qui est dangereuse écologiquement et qui a des retombées sur la santé des personnes qui vivent sur le territoire assez importantes. Et depuis le mois de décembre, l'État équatorien, avec à sa tête Rafael Correa, le grand défenseur des droits indigènes, je rappelle qu'il a fait modifier la constitution équatorienne, notamment pour faire reconnaître la langue chouar, qu'elle devienne une langue officielle. Mais alors, quand il s'agit de gros sous et de permettre à des entreprises chinoises de s'implanter sur le territoire, là, d'un coup, effectivement, la reconnaissance des droits indigènes devient un peu plus compliquée. Donc, au mois de décembre, il y a eu des affrontements avec la police sur l'emplacement de la future mine. Et il y a un flic qui est mort et 14 personnes ont été poursuivies, 14 chouars ont été poursuivis à la suite de ça. Alors, le flic en question, il est mort d'un pare-balles. Or, ce que la communauté indigène répond, c'est qu'ils sont absolument pas armés de ce genre d'armes. Ils sont plutôt des machettes, des trucs comme ça. Donc, eux, ils nient en bloc être responsables de la mort de ce flic. Mais voilà, leur chef a quand même été arrêté quelques semaines après les faits. Et ce samedi, ils ont donc décidé de répondre. Et ils séquestrent depuis samedi deux militaires qui étaient sur le territoire. Parce qu'en fait, Rafael Correa a décrété l'état d'urgence qu'il a prolongé début janvier. Donc avec une suspension du droit à l'info, la limitation de la liberté d'expression, de mouvement... l'inviolabilité du domicile et la possibilité d'association et de réunion. Donc c'est un territoire effectivement en guerre. Et donc depuis samedi, ils ont décidé de séquestrer deux militaires. Ils demandent en échange la libération de leurs camarades qui ont été faits prisonniers politiques. Donc on les soutient beaucoup.
Très fort.
On rappelle à tous ceux qui saluaient avec enthousiasme l'arrivée de Rafael Correa au pouvoir que les alliances de gauche de ce type-là ne sont pas toujours celles qui produisent les meilleurs résultats quelques années après. Voilà, pour ce qui est de l'actu internationale.
Ensuite, pour le national, on va parler...
On va partir à Paris, non?
Donc oui,
vous
savez
qu'à café il manque, mais...
À Paris, il y a donc eu une manifestation anti-avortement. Donc, pour recontextualiser, je vous raconte une petite histoire de l'Antiquité. Donc, c'est Jésus qui passe dans un coin. Et là, sur la place du marché, qu'est-ce qu'il voit, Jésus? Il voit une mignonnette, jeune fille, de quoi elle est 20 ans, avec sa petite robe fendue, blanche. Donc, elle est là, au milieu de la place, avec tout le monde autour. Et Jésus, il connaît bien ce petit monde. Il y a Christine Bouzin, la poissonnière, et Philippe de Lisier, le fou du puits. Il y a Madelon Bazin de Bézet et François Fion. Enfin, il y a toute la petite notabilité et sa famille. Et il y a la jeune fille au milieu qui est toute seule et qui pleure parce que tout ce beau monde lui jette des cailloux. À la gueule, sur le corps, partout, même les enfants. Et ils vont la tuer si ça continue. Alors Jésus, il va les voir et il leur dit... « Mes amis, mes bien chers frères, je suis le fils de Dieu, écoutez-moi, c'est une bonne raison quand même. » Et il leur dit « Qu'est-ce que vous branlez sans deck? Pourquoi est-ce que vous lapidez cette gosse ?»« Elle a avorté !» se met à brailler Christine Bouzin. « Péché! Donc, on la lapide. » »« Mais, dit Jésus, vous ne pouvez pas faire ça, ça va la tuer. Vous n'avez jamais péché, vous. Allez, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et là, il y a une toute petite vieille qui se pointe avec son panier sous le bras. Et elle est tellement lourde que ça la tire vers le sol, elle est faible, elle s'avance. Elle s'arrête devant la petite gosse et elle pose son panier. Et là, bam ! Elle sort du panier une grosse pierre, elle lui écrase la tronche avec, bam ! Il y a des orbites qui giclent partout, il y a du sang. Et il y a Jésus, tout rouge, qui est là à côté. Il regarde la vieille, il lui fait « Putain, maman, des fois, tu fais vraiment chier !» Alors, c'est quoi la morale de cette histoire?
Que si Marie avait connu l'avortement.
C'est quoi la morale? Il n'y en a pas. Mais on a trop tendance à oublier ce que c'est que les cathos et l'église catholique. Donc, oppression du genre humain, et plus particulièrement des femmes et des enfants, obscurantisme, totalitarisme. Bon, je ne vais pas vous faire la liste. Mais à l'heure où tous les tarés de la planète marquent des points, eh ben, nos bons vieux bigots ne pouvaient pas rester en reste. Et hier, dimanche 22 janvier, une collection d'associatifs qui s'appelle En Marche pour la Vie et qui réunit notamment Choisir la Vie, la Fondation Le Jeune, la Renaissance catholique ou les survivants, eh bien, ils ont organisé une grande marche soutenue par le pape de Rome. Et cette marche, elle dénonçait la banalisation de l'IVG et la proposition de loi prévoyant de pénaliser les sites de désinformation sur l'IVG. Donc des sites qui racontent des bobards et font peur aux gens, un peu comme TF1 en somme. Alors on nous dit que c'est la droite catholique conservatrice qui s'est mobilisée dimanche à Paris. Dimanche ? Et la messe alors ? Bon. Alors selon les organisateurs, il y a eu 50 000 décérébrés réactionnaires à leur marche et 10 000 selon l'État. Donc parmi les slogans d'une intelligence supérieure, il y a quelques pépites qu'on vous a réservées. Par exemple, garder son bébé, c'est la vraie liberté. Ou encore, IVG, tous concernés. Donc on remarquera la rime riche. Et IVG, dire la vérité, c'est dissuader. Alors là, on peut s'arrêter un petit peu. Parce que déjà, leur manifestation, c'est aussi pour sauvegarder le cul de tous leurs petits sites internet qui leur apportent de la thune, de la publicité. Et que vu qu'ils font de la désinformation, ils veulent insister vraiment qu'en fait, c'est pas eux qui en font, c'est les autres. Et
c'est pas juste de la désinformation, hein. Le projet de loi il va dans ce sens-là, c'est aussi un délit d'entrave, quoi. Parce qu'en réalité, c'est quand même extrêmement culpabilisant et voilà, ça peut réellement empêcher des nanas d'aller se faire avorter.
C'est
quoi.
Ça. Et donc quand ils disent IVG, dire la vérité, c'est dissuader. On voit bien que, malgré eux, en fait, ils annoncent totalement la couleur de leur message, à savoir leur vérité, et la vérité qu'ils veulent dire, eh ben, en fait, c'est de la dissuasion. Et leur objectif, c'est de dissuader les gens de se faire avorter. Protéger le faible, ça, c'est fort, en chocolat. Mais évidemment, le meilleur, c'est Philippe Delizier, qui nous sort, à la suite de cette manifestation superbe, ouvrez les guillemets, certains hommes politiques plongent la main dans le bénitier et disent à ce moment-là que l'avortement est inacceptable. Et à la sortie, ils plongent la main dans l'urne et disent que c'est acceptable. C'est totalement hypocrite. Bon, et que dire des prêtres qu'on trouve la main dans le slip ? Des autres ? C'est sûr qu'avec la pédophilie catholique, le risque de grossesse non désirée est gravement réduit. Mais n'oublions pas qu'aux origines du christianisme, déjà, la question de l'IVG était totalement centrale. Car on connaît tous le mythe fondateur de la religion de l'amour, et c'est un viol, suivi d'une grossesse non désirée. Et oui, Dieu, avec son sperme saint, est venu abuser du corps de Marie. Si dès lors la pauvre, plutôt que d'être obligée d'élever le fils d'un inconnu, avait pu, comme les gens civilisés d'alors, avorter, elle aurait pu essayer de se reconstruire et mener une vie normale au lieu de mourir de chagrin. Donc cette manifestation nous rappelle que l'Église est profondément misogyne, les moines, l'interdiction du sexe, la couverture de la pédophilie, l'oppression de la femme, le fait qu'il n'y ait que Marie-Madeleine sur les 13 apôtres. Ça nous rappelle également que la situation de l'avortement en France, et comme dans beaucoup de pays civilisés, dissivilisés, est en danger, que les gynécologues toujours sont pas ok, que l'obstétrique c'est totalement scandaleux, et que finalement l'image de la femme souffrante à travers sa grossesse et à travers tout ça, est encore bien présente en France, et puisqu'elle est même un créneau électoraliste. Donc, si Fillon et compagnie, ils ont renoncé à l'avortement, on sait aujourd'hui que c'est de la même manière que les Ricains, quand ils avaient aboli l'esclavage, ont fait un bilan comptable, et que l'avortement, ça coûte moins cher, puisque quand le crime a baissé à New York, et qu'ils ont essayé de savoir pourquoi, ils se sont rendus compte que c'est parce qu'ils avaient permis aux pauvres d'avorter, et donc de ne pas avoir à assumer des grossesses non désirées. Ce qui est vraiment rassurant dans l'histoire, c'est que la veille, il y avait quasiment autant de militants et de militantes qui étaient là pour protester contre la misogynie internationale qui s'organise autour de Trump. Et voilà.
Sur la garde à vue de Cédric Héroux, oui. Qui a sauvé des migrants.
Là, on a peu de micros aujourd'hui parce qu'on est, nombreux. Donc je reprends le micro. Et le casque, merci. Donc Cédric Héroux, interpellé pour la troisième fois, et non la deuxième, comme on l'a annoncé dans les titres. Troisième fois, donc Cédric Héroux, tout le monde le connaît, c'est l'homme qui aide les migrants. C'est comme ça que la presse le désigne, l'homme qui aide les migrants. Et n'en déplaise à certaines personnes qui disent que non, en fait, il n'aide pas les migrants parce que c'est un militant. Alors ça, c'est suite à son passage sur France 2 où il a interpellé Emmanuel Valls alors que ce dernier était invité. Donc, vu l'interpellation de Valls par ce militant, on ne peut pas dire qu'il aide les migrants, il milite. Bon, cela dit, il a été jugé le 4 janvier dernier pour aide à des migrants, en l'occurrence avec certains de ses amis, certains membres de sa famille. Il loge, il récupère des migrants, il les aide à sortir du département, parce que du coup le département, le 06, c'est vraiment un département qui est très très défavorable. Et du coup, il les soigne avec des amis, notamment une infirmière de Médecins du Monde. Et là, en fait, il s'est fait prendre en flag de récidive. Donc le mec, en fait, il a eu un procès, le délibéré c'est le 10 février, et il récidive. Bah ouais, il y a des migrants. Il y a des migrants qui arrivent, ils sont malades, ils fuient la dictature, ils fuient la guerre, ils fuient
la misère,
la maladie. Et ils arrivent, et ben il faut bien s'en occuper puisque personne ne s'en occupe. Donc Héroux, il récidive. En fait, il se défend en disant qu'il ne récidivait pas, qu'en fait il avait trois réfugiés qui étaient chez lui et qui étaient partis, et sans nouvelles d'eux, il est parti à leur recherche. Bon, peu importe quelle est la version officielle, en tout cas la police n'a pas voulu chercher à comprendre, elle a perquisitionné violemment, ils sont arrivés avec une trentaine de gendarmes armés, casqués, ils sont rentrés sur les terres sans rien, pas en sa présence, alors que normalement en fait ils devraient être présents lors d'une perquisition. Ils ont violenté les membres de sa famille, ses amis, et ils ont pointé une arme sur l'infirmière qui soignait deux enfants de mineurs soudanais.
C'est l'état d'urgence qui permet ça.
C'est l'état d'urgence qui permet ça, certainement, oui. Et donc, Cédric Héroux a encore passé 24 heures au commissariat. En sortant, il s'est fendu d'une petite lettre au procureur que je ne vais pas vous relire, mais que vous pouvez assez voir facilement sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ou qui est assez belle, et qui termine par une vidéo intitulée « Nique la France ». Donc voilà, c'est en février, attendez voir, c'est le 10 février que sera rendue la décision du tribunal, et qu'on imagine bien dur, d'autant qu'entre-temps, donc cette troisième interpellation et garde à vue va certainement rajouter un peu du comment dire,
ça va pas l'aider.
Mais en tout cas, faisons tous comme lui, parce que c'est la meilleure façon de le défendre. Et en fait, il va falloir que tout le monde s'y mette. Bien et sûr. Comme ça, il sera pas le seul. Et voilà. Et on le défendra. Il y a que comme ça qu'on peut le défendre. Merci et bon courage, Cédric Héroux.
Merci, Cédric.
Et du coup, j'en profite rapidement pour rappeler qu'il y a eu ce week-end à Caen une grosse cohorte nationale autour de la solidarité avec les migrants, et que du coup c'est important de continuer à s'organiser pour que cette solidarité-là elle soit effective, mais aussi pour que les migrants eux-mêmes puissent aient des espaces d'auto-organisation et d'autodéfense qu'on leur laisse pas, puisqu'on les dépossède de à peu près tous les moyens de lutte qu'ils pourraient avoir. Donc voilà, je pense que face à ça, ce qui est essentiel à mon sens, c'est de nous continuer à s'organiser et à organiser cette solidarité-là.
Pendant ce temps, il y a eu hier donc le premier épisode des primaires de la gauche. Je parle d'épisode hein, parce que à ce niveau-là, c'est vraiment du divertissement, du très grand divertissement. Et tel le couperet implacable sur la tête de la poule gauloise, les résultats de la primaire de la Belle Alliance des anciens ministres sont tombés. Pour Valls et Hamon, le Parnasse et l'Olympe réservés aux dompteurs de foule. Pour les autres, retour au niveau octonien du Parti socialiste en plein dépôt de bilan. Spectacle, mascarade et échec critique. Car oui, c'est une info cette primaire. Taillé comme un costard pour Hollande, qui s'est retrouvé n'être qu'un nœud de cravate sur le licol d'un parti souffre-terre, trahi par son chef, lui-même trahi par ses sous-chefs. Quant au costume taillé sur mesure pour Hollande, qui devait être cette primaire, on sait qu'il a enfilé ce costard. Cela fait quelques semaines maintenant que diverses personnalités politiques exhortent à voter aux primaires de la gauche. Non, de la gauche et des écologistes. Non, la primaire citoyenne... Non, la primaire des socialistes radicaux et écologistes, non. La primaire de la Belle Alliance Populaire. Hein ? Populaire. De la droite, oui, je crois que c'est ça. Bref, une partie des médias et du monde politique en fait tout un foin. Quant à moi, si je devais trouver un adjectif, ce serait divertissant. Car outre de nombreux débats organisés à la télé, donc notamment trois avec tous les sept candidats, il y a eu quelques rebondissements, comme donc déjà le désistement rapide de Hollande, Valls qui a surgi aussitôt pour se présenter, le retour des soi-disant frondeurs, le retour aussi du mystérieux écrivain de polar Vincent Peillon, et puis quelques écodos perdus dans le lot, voilà, qui étaient là aussi apparemment. Bon, on les a pas trop vus. Donc les résultats sont finalement tombés hier soir, et c'est le duo Valls-Hamon qui s'affrontera au deuxième tour. Mais parlons-en un peu d'abord des résultats. Car déjà ce qu'on peut dire, c'est que la participation a été à un niveau vraiment médiocre, au pire vraiment lamentable, car c'est, selon le PS, 1,5 million de personnes qui se sont déplacées. Ce qui fait plus de deux fois moins que pour la primaire de la droite, enfin du centre de la droite. Mais en plus, il semblerait que ces chiffres, donc déjà mauvais, soient gonflés, et en fait ça se voit gros comme une maison. Parce que entre les premières estimations de participation, dimanche soir, et celles de lundi, il y a eu 352 000 13 personnes de plus qui ont voté, enfin qui ont été estimées comme ayant voté, mais les candidats ont tous eu exactement le même niveau de pourcentage. Donc c'est très très peu probable que il y ait eu une répartition, enfin qu'il y ait eu plus de gens qui aient voté, mais que la répartition soit restée la même. Et en fait, d'après les organisateurs, il y a eu un bug, mais bon, les explications sont assez peu satisfaisantes, et les résultats et le nombre de participants sur le site du PS a été changé depuis plusieurs fois encore. Donc vraiment, ils savent vraiment pas ce qu'ils font, ouais, quoi.
Le problème technique peut toujours arriver, hein.
Le problème technique, c'est que personne n'est venu voter. Il y a un type qui fait « Bon, il y a personne qui est venu voter, alors comment on va faire ?»
Ouais, 1500, c'est cool.
Enfin bon, reste que le deuxième tour aura lieu et que ce sera Valls et Hamon qui s'affronteront. Valls, on le connaît bien, 49-3, loi travail, islamophobie, d'autres choses.
Ouais.
On n'a pas le temps de terminer à 20h.
On n'a pas le temps, mais on le connaît bien. Et puis Hamon, il a un programme qui passe pour un programme de gauche, mais qui est surtout pompé sur celui de Nouvelle Donne, il faut avouer. Bon, c'était un vieux parti que personne connaissait, donc ça s'est pas trop vu. Revenu de base tout minable, baisse du temps de travail, bon, rien de bien révolutionnaire. Mais la question est surtout, en fait, comment il va composer avec les autres, parce que le PS a peu de chances de se retrouver au deuxième tour des présidentielles. Et surtout, quand est-ce qu'on va enfin finir avec le parti soi-disant socialiste ?
Ah bah apparemment, dans pas si longtemps que ça, si on en croit les informations locales.
Le nom de domaine est libre.
Alors du coup, on passe aux infos locales, ça tombe bien, puisqu'on va encore parler du Parti Socialiste et de Emmanuel Macron. Alors pour les chiffres du coin, donc pour le département, c'est Hamon qui arrive en tête avec 38%, suivi par Manuel Valls qui est à 28%. Et sur Lyon précisément, Hamon remporte le premier tour avec 41,48% des voix contre 24% pour Manuel Valls. Donc c'est une sacrée déculottée. Alors, est-ce que la position de Gérard Collomb sur l'affaire Macron a influé les votes ? Je pense que les militants socialistes qui ont plébiscité Hamon pour ce premier tour seront contents de savoir que leur édile et nombre des pontes du PS ont préféré se rallier à Macron dès la semaine dernière. Parce que c'est vrai que Macron avait dit « je préfère les défections avant le premier tour plutôt que l'opportunisme qui arrivera sans doute aussi après les résultats définitifs de la primaire ». Donc les Lyonnais, les bons petits soldats lyonnais ont dès mardi dernier publié un communiqué.
On est avec toi, Macron.
Voilà, c'est bon, t'inquiète. Non, il faut croire que Valls est pas assez à droite pour eux.
Pas assez riche.
pas assez à droite. C'est vrai que quand on a écouté son discours hier soir de grand perdant du premier tour, c'était vraiment un exemple de progressisme, hein, et de gauchisme, ultralibéralisme, islamophobie à tous les étages. Je comprends les socialistes lyonnais qui sont un peu effrayés par ces perspectives. Donc, face à ça, ils se sont tous ralliés à Macron. Et donc, ils sont 46 à avoir publié un communiqué. C'est vraiment des figures majeures.
L'appel des 46.
C'est l'appel des 46. C'est vraiment des figures majeures du PS. Alors, parmi eux, pour ne citer qu'eux... Hein,
les pires.
Je vais, ouais, voilà, les pires. Ouais, donc, les pires. Romain Blachier, qu'on connaît bien.
Romain Blachier, qui se revendiquait il y a 2 semaines en répondant à un article de Rébellion de ne pas soutenir IR quand même.
Mais ça, c'était il y a 2 semaines. Hein. Entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de trucs.
Et Blachier, ça rime.
Il est donc adjoint au maire du 7e, pour ceux qui ne le connaissent pas. On a aussi l'adjoint au maire de Villeurbanne, Loïc Chabrier, qui sévit également à l'Université Lyon 2.
Ça rime avec Vachier aussi. Hein.
Ça rime avec Vachier aussi. Guy Corazol, qui est adjoint au maire de Lyon aussi. Georges Kepenekian. David Kimmelfeld, pareil, qui est à la métropole et adjoint au maire. Jean-Louis Touraine, député du Rhône. Michel Lefaou, vice-président aussi de la métropole. J'en passe et pas des meilleurs. Et voilà, tout ce beau monde nous explique à quel point... Macron, c'est l'avenir de la France. Donc, alors, il commence par dire « Nous sommes conscients que ce choix peut surprendre. »
Ouais. Ouais, effectivement, bah, c'est bien. C'est
bah,
bien.
Non, pas vraiment, en fait. Hein. Ça fait des années que vous êtes au pouvoir dans la ville. Vous avez toujours mené une politique de droite. Non, ça n'a étonné personne, à vrai dire. Et pour eux, le fondateur du mouvement, je cite, hein, « Le fondateur du mouvement En Marche, donc Emmanuel, est le seul candidat progressiste. » Je finis pas la phrase. Progressiste. On est en train de parler du mec qui a rétabli le travail le dimanche. Un progressiste. D'accord. Donc, je vous fais l'économie hein, des conneries qu'il raconte dans tout ce communiqué. Hein. Et pour eux, c'est une recomposition politique majeure.
Il n'y a pas assez de Rockefeller de nos jours.
Majeur, c'est comme le doigt d'honneur.
C'est ça. Comme on n'en avait plus connu depuis le congrès d'Épinay. Donc les mecs, en fait, ça sont des aussi. Mitterrandiens convaincus qui, grâce à ce ralliement avec Macron, vont enfin pouvoir respecter la mémoire de François, qui a quand même été le progressiste qui a sévi en France avec le plus de ferveur. Donc on les remercie. On espère surtout que c'est pour eux, c'est la décomposition majeure du siècle, qu'on n'entendra plus parler d'eux, que le Parti Socialiste meurt écrasé sous le propre poids de sa connerie, et qu'on reste bien tranquille sans lui, et sans les autres partis aussi. Hein,
oui, on s'en passera.
Voilà. Mais merci en tout cas Gérard Collomb pour être un frondeur aussi subversif.
On vient de parler beaucoup de François, du pape François, de l'Emmanuel, de la ferveur politique, mais on va parler d'un autre type de ferveur, hélas, qui est toujours pas plus, forcément plus joyeuse, la ferveur religieuse. Donc avec une grande question, c'est le procès du père Prénat aura-t-il lieu ? Donc nous, clairement, en fait, on l'espère fortement, mais on a appris, enfin la presse explique que ce prêtre pédophile notoire aurait eu un malaise à la période de Noël en lisant un interview expliquant que l'Église avait enfin pris la mesure de ses actes et avait fait en sorte qu'il sera jugé aussi en interne. Et donc l'Église reconnaissait que la pédophilie, ou en tout cas commençait à reconnaître que la pédophilie n'était pas bien. Et donc elle commençait à espérer à avoir un procès en interne. Donc en réaction donc, à ce malaise, donc, pour revenir sur cette affaire, l'affaire Prénat, c'est une affaire qui a été connue énormément au niveau national, parce que cet immonde personnage, en fait, a abusé d'un certain nombre d'enfants, de dizaines même d'enfants, pendant toute sa carrière de prêtre, qu'il a tourné un peu partout dans la région, notamment en démarrant à Sainte-Foy, où un certain nombre de parents en fait ont dénoncé des faits. Et l'Église catholique, en fait, toute la hiérarchie, au lieu de s'en occuper et de prendre l'affaire au sérieux, en fait, a fait comme en fait aux États-Unis, ce que montrait bien le film Spotlight, a commencé à le faire tourner de paroisse en paroisse. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle affaire qui sortait, ben en fait on le déménageait, on déplaçait le problème.
C'est ce qu'on appelle l'évangélisation.
L'évangélisation des petits enfants, ouais, non mais c'est un véritable cauchemar en fait.
C'est pareil, hein, si la mère de Prénat avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Hein.
Ah, ça c'est clair, et là des dizaines de gamins auraient une vie beaucoup plus sympathique, quoi. Donc clairement, donc oui, il a été muté dans le Rouennais où en fait pendant plus de 20 ans, il a tourné de paroisse en paroisse, abusant de troupes scouts en troupes scouts. Donc, voilà, un charmant personnage, et on a seulement Barbarin qui commence à se réveiller en disant qu'il aurait peut-être été bien de se réveiller un jour ou l'autre, qui reconnaît que mettre 25 ans avec des plaintes régulières, bah c'est pas mal, c'est un certain temps, et qu'ils auraient peut-être pu se réveiller plus tôt. Et donc il a fallu.
C'est bien pour ça qu'il l'a pas fait lui-même.
Hein, mais oui, c'est clairement, c'est parce que dans les faits, en fait, là on parle en fait de l'Église qui se réveille avec le pape qui prend en fait les trucs à bras le corps, mais localement, clairement, on a continué à essayer de cacher le truc.
Barbarin, c'est plus la force du silence.
Quoi. Ah bah clairement, le silence, le poids du silence, ouais, clairement.
Moi j'aimais bien les gueules noires.
Mais quoi Oh, blague de merde numéro 5.
C'est donc... sympa avec nos vannes. Hein.
Pardon.
5, ça serait plus.
Non, mais il aurait fait... Par contre, il faut quand même reconnaître et féliciter en fait l'association La Parole Libérée, qui est en fait réunie d'anciennes victimes. Et c'est grâce au courage en fait de ces victimes qui ont réussi à s'unifier pour porter l'action en justice que quelque chose va sortir et qu'enfin on peut espérer qu'un procès ait lieu. Et juste, on dit si la justice a besoin qu'on amène le tribunal jusqu'à l'hôpital, bah écoutez, n'hésitez pas, on viendra vous construire une scène. C'est pas un problème. Quoi.
Pour rester dans la fachosphère. Alors, on a appris que les fachos, les identitaires, ouvrent un local, un local de boxe ce vendredi à Lyon. Donc, bon, non content de s'être un peu étendu ces dernières années dans les rues lyonnaises, ils ont décidé de faire face à l'insécurité généralisée, ils ont décidé d'ouvrir une salle de boxe au cœur de la ville. Donc, on ne sait pas encore exactement où c'est, mais on va tâcher de savoir où c'est, puis pas les laisser s'implanter comme ça, comme ils le font depuis quelques années. En tout cas, on n'a pas peur. Hein, on sait qu'ils savent faire la bagarre, mais ils sont quand même pas si nombreux que ça.
Mais tu peux donner l'adresse si on veut leur poser quelques questions et venir. Enfin, bah, ils ont balancé l'adresse publiquement, donc si vous voulez leur envoyer quelques mails pour dire ce que vous pensez,
n'hésitez pas. Voilà, alors contact at Lyon Le Mellor, donc Lyon comme la ville, Le Mellor, donc LEMELHOR.com. Voilà, vous pouvez leur envoyer ce que vous voulez, hein. N'importe quoi.
Vous fournissez les protège-couilles
Voilà, donc on espère qu'ils vont arrêter de s'étendre comme ça, parce que ça commence à devenir un petit peu trop présent.
Ouais. La peste brune, quoi, qu'on ne revienne pas au Moyen-Âge. Enfin, passer ça. En parlant des injustices du fascisme, on va atteindre le dossier du jour, et donc on va revenir notamment sur la manif d'Adama Traoré qui a eu lieu ce dimanche à Lyon, et qui fait suite à un week-end régional en fait de promotion de cette cause, d'entraide à la famille, donc voilà.
Oui, voilà, donc la famille Traoré qui travaille depuis plusieurs mois, depuis plus de 6 mois sur un dossier pour avoir la vérité et la justice sur l'assassinat de leur frère, fils, etc. Se sont fendus de 3 jours de mobilisation à Grenoble, Saint-Étienne et Lyon. Donc à Grenoble et Saint-Étienne, il y a eu des projections, des débats, des prises de parole. Et ça finissait ce dimanche avec une manifestation à Lyon au départ de Jean Massé, qui est passé par Guillotière avec des prises de parole à Guillotière, place Gabriel Péri. Puis la manif s'est dirigée vers la place Guichard pour se terminer, donc place Guichard avec de nouveau des prises de parole. Selon les médias, il y avait 350 personnes, selon les participants...
5 000.
Oh non, on était à 437 au dernier comptage, mais on va vous diffuser un petit reportage qu'on a fait sur place et qui va vous plaire.
C'est sûr.
Comment dire, là, bah, on a organisé ça, là, ces 3 jours, par rapport donc, à la mort d'Adama Traoré, réclamer que soient jugés les gendarmes qui ont commis un crime, clairement, et avec toutes les malversations, etc., qu'il y a eu, enfin, voilà, un dossier assez chargé. Et donc, c'est aussi après, pour que ce soit rendu visible, toutes les violences, qu'elles soient policières, gendarmes, sur des personnes, souvent 90% ici, soit des quartiers pop, soit soit racisé, quoi. Et de pouvoir aussi donner aussi de la voix aux familles qui, elles, sont pas forcément aussi médiatisées que celles d'Adama Traoré. Et qu'en même temps, c'est quand même un... Ça fait quand même vraiment beaucoup de temps qu'il n'y a pas eu une aussi grande mobilisation, en fait. Donc ça donne une espèce d'élan comme ça, et en espérant que ça fasse un espèce de roulement à billes qui... Ouais, qui va apporter des choses.
Rumeur provient du bas, échappe au froid. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix.
Pourquoi Lyon? En fait, on a fait sur trois villes. Il y avait à Saint-Etienne vendredi, où il y avait une projection, les coups de leurs privilèges avec Sabrina Chevy. Et derrière, une soirée de soutien en récolte de fonds. Et à Lyon, parce que il y a déjà un collectif aussi quand même qui a permis que ça puisse se faire aussi à Lyon.
Nous, on est en fait du FIQP, et c'est une organisation, donc Front Uni des Immigrations des Quartiers Populaires, qui a pris à charge justement de dénoncer le racisme d'État, etc. Et donc du coup, c'était une des actions. Il faut dire que la sœur jumelle d'Adama vit à Valence.
Je vous remercie à tous d'être là, sincèrement. Le combat est continu parce qu'on a besoin de vous encore.
Donc qui est dans la région, donc on avait contact direct avec elle et on a décidé de coordonner Saint-Étienne, Grenoble et Lyon. Sur ce cas bien précis, il y a vraiment des choses incroyables qui se sont passées au niveau de la police, de la justice, de la maire de Beaumont-sur-Oise et tout. Et aujourd'hui, et après la mort d'Adama, il y a deux frères d'Adama qui sont poursuivis, dont un encore en prison, et c'est juste intolérable, quoi. La question, c'est qui nous protège de la police? Et je le regrette bien, puisque depuis Malik Oussekim, il y a plus de 30 ans, j'ai l'impression que les choses n'ont pas évolué, n'ont pas changé. Mon frère est mort, et j'ai l'impression que ça fait 30 ans que des frères parlent comme moi.
C'est vraiment l'occasion là aussi de laisser la parole aux concernés par ces violences-là. C'est pour ça que pendant les trois jours, la famille était là les trois jours, et que c'était elle qui avait la parole en priorité, quoi. C'est les personnes qui vivent de plein fouet les oppressions qui peuvent en parler le mieux et qui ont droit en premier à la parole normalement. C'est pas des experts qu'on va aller chercher je sais pas où, des gens qui vont venir parler à la place d'eux.
À nous de trouver la solution à nos mots, expliquer la situation à nos mots. À nous de nous prendre en main, faisons les choses maintenant. Non plus demain, arrête-nous de les faire trembler ici à chez nous.
Justice pour Adama, justice pour Adama.
Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. À nous de prendre les armes, frère, qui veut la paix, prépare la terre.
Alors Bagui, nous on a fait appel, donc on peut pas trop communiquer, mais bon, c'est une telle aberration, ce pseudo-jugement qu'il y a eu, ça a été du théâtre, c'était vraiment... Donc on a fait appel, outrage et rébellion. Donc être emprisonné pour outrage et rébellion, quand je vois qu'un ministre se fait gifler, mais qu'on prend du sursis, je me demande un peu ce qui se passe. Donc voilà, c'est encore une fois un acharnement sur la famille Traoré, dans le Val d'Oise, pour essayer de nous faire taire. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils nous tuent tous, ou qu'ils nous enferment tous, parce que autant qu'on est, les 15 frères qu'on est, on ne va pas lâcher. Tant qu'il y aura du sang qui sortira de ma bouche, eh bien je serai là comme ça, en train de demander justice, et dire aux gens... Comment fonctionnent les institutions en France si on se laisse faire et si on ne connaît pas nos droits? Ils se servent de nous pour faire des exemples. Combien de fois on entend il a été condamné pour exemple, pour donner un exemple aux autres? Nous, on n'est rien à côté d'eux. Face à un procureur, face à un médecin légiste, on n'est rien. Donc nous, on a eu la chance de découvrir ces énormités. Dépayser une affaire et muter un procureur, Je pense que ça veut tout dire. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas besoin de mentir. Le fait qu'ils aient menti depuis le début, moi, je suis désolé, mais voilà. Quand j'ai rien fait, que j'ai juste à le dire. J'ai pas obligé d'inventer que mon frère est cardiaque, qu'il est mort, qu'est-ce que. Voilà.
Une rumeur provient du bas, échappe au froid. On entend alors clamer, pas de justice, pas de fait.
Pas de justice, pas de fait. Pas de justice, pas de fait.
Alors on réclame la justice, la vérité, qu'on condamne les coupables. Voilà, une vraie justice pour tout le monde pareil. À plus long terme, qu'on arrête de canarder et de tuer dans nos quartiers populaires, qu'on arrête de tuer nos frères, nos hommes, nos maris, qu'on arrête cette justice à deux vitesses, qu'on arrête la discrimination, les putains de contrôles aux faciès et qu'on arrête de nous faire chier par rapport à nos blases à consonance, par rapport à nos gueules et par rapport de là où d'on vient. Juste ça, voilà.
On vous remercie tout le monde, tous les gens qui se déplacent pour venir nous soutenir. On remercie tout le monde. Parce qu'on fait des bruits, c'est pour ça qu'on a mis Bagui en prison. Mais nous, on va lutter. On n'a que ça à faire. On parle aujourd'hui, demain, on va parler. On lutte. Adama, il est parti, il ne va plus revenir. On lutte pour que ça ne se reproduise plus. Pour que ça ne se reproduise plus. Pour que ça cesse. Donc, justice, vérité. Pour Adama, pour toutes les victimes. Merci beaucoup.
C'est la bombe d'Adama. C'est pas le premier. Il y a 15 morts par an. On les oublie. On parle d'Adama, mais on est là pour tous les autres.
Là, j'ai un panneau sur l'année 2012 et les morts provoquées par les violences policières qui dit qu'en 2012, il y a déjà 14 morts connus et au moins 4 blessés graves connus. Le 11 janvier 2012, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, Abdel, 25 ans, qui meurt d'une crise cardiaque lors d'un contrôle. Le 10 janvier 2012, à Clermont-Ferrand, Wissam El Yamni, 30 ans, battu par la police, qui tombe dans le coma et succombe de ses blessures 10 jours plus tard. Et la famille attend toujours une contre-expertise d'autopsie. Le corps n'a donc toujours pas pu être inhumé. Le 11 mars 2012, à Ivry, Ahmadou Marega, 17 ans, qui meurt à la suite d'une poursuite par la police. Le 27 mars 2012, à Lyon, un homme âgé de 39 ans qui meurt des suites de ses blessures. Il serait tombé d'une voiture de police. Le 21 avril 2012, à Noisy-le-Sec, dans le 93, Amin Bentoussi, qui est tué par un policier de plusieurs balles dans le dos. Le 14 mai à Nantes, un garçon de 13 ans qui se noie afin d'échapper à la police. Le 22 mai à Massy-Palaiseau, deux jeunes en scooter sont percutés par la police. L'un est grièvement blessé et l'autre meurt. Le 17 mai à Cayenne, un jeune de 17 ans meurt au commissariat. Dans la nuit du 5 au 6 juin, à Melun, Youssef Madi, 24 ans, meurt des suites de sa noyade dans la Seine alors qu'il voulait échapper à un contrôle de police. Le 9 juin à Villiers-le-Bel, deux jeunes sont blessés, dont l'un grièvement. Rodrigue, 20 ans, actuellement dans le coma. Ils ont été percutés par une voiture de la BAC 5 ans après la mort de Lakami et Moussine, percutés dans le même quartier par la police. Le 12 juin, une femme de 62 ans meurt lors d'une perquisition de police à Bondy. C'était Martin Luther King. Elle aurait fait un malaise cardiaque. Le 23 juin, une fillette de 18 mois et son père sont blessés par des policiers à la Verrière, dans les Yvelines. Le 26 juin, Nabil, un jeune villefranchois de 26 ans, a été tué à Millau par la balle d'un fonctionnaire de police appartenant à la BAC. Et le 18 juillet, un homme s'est noyé dans la Marne, au Perreux-sur-Marne, dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'il tentait d'échapper à la police. Le 9 juillet, Noureddine, 28 ans, originaire du Soudan, est mort dans le centre-ville. Et donc tout ça, c'est juste pour l'année 2012.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. À nous de prendre les armes, frères, qui veulent la paix, prépare la guerre.
Si est Bouddha, on n'oublie pas. Si est Bouddha, on n'oublie pas.
Et donc là, on est à une manifestation en soutien à la famille Traoré et pour la justice pour Adama Traoré, qui est mort au commissariat avec... trois versions différentes des explications de sa mort, le procureur qui a menti et toujours pas de, d'explication ni de justice sur sa mort. Mehdi, il y a deux semaines, à Vénissieux aussi, qui est mort lors d'une course-poursuite avec la police apparemment, mais c'est pareil. Peu d'explications et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et pour l'instant, pas d'enquête ni rien.
Tout le monde nous prend en l'air. Mehdi, Adama, Mehdi, Adama, Mehdi, Adama, Mehdi, Adama, Mehdi, Adama.
Monsieur, moi, mon beau-frère, c'est Mehdi. Voilà, il venait d'avoir un enfant, il venait de fêter la naissance de sa fille, et voilà.
Ça s'est passé il y a deux semaines, non?
Le 11 décembre.
11 décembre, ouais. Okay. Il va y avoir une marche blanche, non, la semaine ouais. prochaine?
Bah, samedi, à 14h.
Où ça?
À Vénissieux.
On est tous ensemble, on fait du boucan, on est là, et on est, et ils le savent, on est là, on est là, on reste là.
Donc voilà, vous venez d'écouter un reportage qui a été fait donc ce dimanche à un manif en soutien à la famille d'Adama Traoré pour exiger la vérité et la justice dans cette affaire. Mais là, si ce genre d'affaire arrivait rarement, ça serait très bien, mais c'est la police française étant extrêmement douée pour assassiner des gens, bah écoute, ces affaires se reproduisent régulièrement. Et donc à Lyon, au mois de décembre, Mehdi, 28 ans, s'est fait tuer par les forces de l'ordre avec un scooter, avec deux de ses potes qui eux ont survécu mais ont été fortement blessés. Et donc en soutien et pour exiger aussi la justice et la vérité par rapport à cette affaire, parce que le témoignage des forces de l'ordre ne tiennent absolument pas la route, une marche est organisée donc samedi prochain. Donc à partir de 14h30 à l'angle de la rue Roger Salengro et de la rue Francis de Présancé à Vénissieux, qui nous amènera jusqu'à la rue au commissariat Marius Berlier dans le 8e arrondissement. Donc on va vous passer un petit reportage qui a été fait par les copains du Canu Info du vendredi, parce que la famille était aussi présente pour soutenir Adama Traoré. Ce petit reportage vous éclairera sur toute l'affaire.
Et tranquillou, papère entre amis et tout. Et il était vers les alentours de 4h, 5h du matin quand on s'apprêtait à chacun rentrer chez nous. Et malheureusement, on a été pris en chasse par un équipage de police qui semblait. Je sais pas comment vous dire.
Mais vous étiez pris en chasse, vous étiez sur quoi comme véhicule?
Sur un scooter. On était trois.
Radio Canu. Reportage.
J'habite à Vanvelin, voilà. Et je voudrais revenir par rapport à ce qui s'était passé le 10 décembre, vers les alentours de Vénissieux, là-bas. On était pris en chasse par la police, moi et un ami à moi qui s'appelle Midji. Et avec un autre ami, on était trois, on était pris en chasse par la police, et qui a entraîné un accident mortel, et que justice n'a pas été faite. Je me souviens qu'ils étaient bien derrière nous. Et mon collègue, mon ami, qui était juste derrière moi, lui sentait le pare-choc de la voiture. Il était collé à la plaque du scooter. Il était vraiment collé. Sur de plusieurs dizaines de mètres. Bah, cette course, ça s'est fini. À la fin, on a fait un accident et très, 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 très grave qui a entraîné quelqu'un qui est mort.
Est-ce que tu pourrais te présenter?
Bonjour. Voilà, moi, je m'appelle Ahmed. Je suis le beau-frère de la personne qui est partie. J'ai su ça à 8h du matin, dimanche 11 décembre. Nous sommes partis avec l'épouse de mon beau-frère à l'hôpital. On a attendu énormément pour qu'on nous donne une réponse. Je suis parti sur les lieux de l'accident, le jour même, dans l'après-midi. J'ai vu des débris du scooter. J'y avais posé un bouquet de fleurs, on l'a enlevé. Il y avait une patrouille de police municipale et une patrouille de là-bas qui tournait à côté. Alors que c'était un lieu, on était là pour se consoler comme on pouvait. J'ai vu des articles comme Radio Espace, qu'ils avaient mis des articles par rapport qui étaient tout faux. Je me suis permis de les appeler pour leur dire que ce qu'ils ont mis, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'ils mettaient alors en fait?
Qu'ils ont mis comme quoi que c'est eux qui sont rentrés dans la police. Ils ont mis une photo où c'est une moto, alors que c'est un scooter. Ils ont dit comme quoi que c'est eux qui sont en faute, c'est les jeunes qui étaient sur scooter. Et donc voilà, et c'est pas normal. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit que c'était la police qui leur avait donné ces versions-là. J'aurais dit que c'est pas la vraie version. J'aurais dit que clairement ils ont donné leur version à eux. Pour pas dire qu'ils sont en faute. Et nous, on le vit mal, que ce soit la famille, les proches, sa femme. C'est très dur. Parce que le jour du décès, je m'en rappellerai toujours, à l'hôpital, il y avait beaucoup de policiers pour un décès.
Pendant l'accident, en fait, je me rappelais plus de rien. J'ai eu un choc à la tête. Et j'ai eu un trou noir, un flash. Et je me suis réveillé. On était à l'hôpital, j'étais à l'hôpital. Comment ça s'appelle ? Ils sont venus le jour même, quelques heures après l'accident. Ils sont venus pour me faire une déposition que j'étais pas apte mentalement.
Donc
et physiquement.
La police est venue, c'est ça ?
Ouais, ils sont venus pour m'interroger, comment ça s'est fait passer, tout ça. Franchement, je me rappelais de rien. J'étais encore sous choc.
Ils ont pris une déposition à ce moment-là ?
Ils ont voulu prendre une déposition, mais je me rappelle que je les ai rien dit. Hein, je les ai pas parlé. À aucun moment, je les regardais fixés et je disais pas à moi. J'étais encore sous le choc, je venais de me faire opérer.
Et le troisième copain, lui arrivait quoi ?
Lui arrivait, il s'est cassé le fémur, qui s'est fait opérer lui aussi. Hein. C'était très très grave aussi.
Une voiture de pompier qui arrive 15 minutes après, alors que c'était 5h30 du matin. Si ça roule facilement, on peut pas dire que ça roulait pas. Et ils ont mis énormément de temps. Pour 15 minutes, c'est énorme.
Je suis Yamina, la sœur de Mehdi. Je suis arrivée à Grange Blanche. Donc on m'a fait attendre pendant une bonne heure, je pense. C'était au service de chocage, des chocages. Ensuite, donc au bout de une heure, il y a un médecin qui est venu nous m'expliquer que mon frère était décédé. Et j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit, que j'avais je ne sais pas combien de policiers dans le couloir, un commissaire qui venait me raconter sa version des faits. Donc le commissaire nous indique que suite à un essai de contrôle, donc mon frère est décédé, qu'il n'y a pas eu de course-poursuite, qu'il n'y a pas eu de gyrophare, qu'il n'y a pas eu de mise en danger, qu'il n'y a rien eu du tout, en gros qu'il est mort tout seul. Ils n'ont pas compris, il a accéléré, il a coupé la route à la voiture de police et il s'est encastré dans un mur. Donc suite à ça, j'ai été au commissariat de Marius Berrier où j'ai été très bien reçue par deux commissaires de la police judiciaire. Qui m'ont expliqué là par contre que effectivement finalement il y a quand même eu les gyrophares que voilà, mais qui comprenaient pas pourquoi il avait coupé la route aux policiers, il s'était parti s'encastrer dans un mur. Quelques jours après, donc je me suis re-rendue au commissariat de Marius où là le ton a changé, un peu comme si j'étais moi-même coupable d'un délit ou de autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, pas comme une sœur qui venait récupérer les affaires de son frère qui venait de décéder.
Je suis là, ma compagne à Mehdi. Marc Berdier, quand on est parti pour récupérer ses affaires, on a été très mal reçus. On s'est fait limite insulter, en fait. On a enduré des enfants dans une école qu'on engueulait. Et ça s'est passé. Ils nous ont fait attendre une demi-heure en bas. Et on comprenait pas comment ça se fait, alors qu'ils venaient d'enlever la scellée sur Mehdi. Du coup, nous, on voulait le voir le plus vite possible. Et dès qu'on est monté, on leur a demandé comment ça se fait. Donc là, il nous a dit que, il était au téléphone avec le procureur. Donc c'est pour ça qu'il était sur notre affaire. Donc moi, je lui ai gentiment dit que, autant pour nous, qu'on savait pas, mais vous auriez pu nous le dire. Au lieu de nous parler comme vous parlez. Après, y a le policier d'à côté qui s'est mis à s'énerver. Donc, je lui ai dit d'arrêter de me parler comme ça, alors que je ne parlais même pas à lui déjà. Et ensuite, là, c'est là où il m'a dit qu'il était chez lui ici et qu'il faisait ce qu'il veut. Donc, voilà.
Le policier t'a dit...
Je suis chez moi ici. Ouais, clairement, il me l'a très bien. Il m'a dit, je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je suis chez moi ici.
Et le dossier, il a été classé... Enfin, vous y avez accès ou...
Non, on n'a pas accès. Encore aujourd'hui, on ne sait pas
On ne sait rien du tout, en fait. Rien de rien, rien, vraiment rien du tout.
Parce que lorsqu'on a été voir l'IGPN, l'IGPN n'a pas été mandatée sur ce dossier. Donc, c'est la brigade de la route du 3-6 qui a été. Donc, pour eux, c'est un banal accident de la route. Le scooter n'a pas été expertisé, ils n'en voyaient pas l'intérêt, ça coûte cher, enfin, c'est ce qui nous a été dit au commissariat. Et que comme ça, on ne fait pas, l'État ne fait pas expertiser lorsque c'est un accident de la route. Voilà. Donc en aucun cas, la police est en tort ou à se reprocher quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, voilà, bah, on organise une marche, déjà en sa mémoire pour nous, la famille, essayer de, bah, déjà de faire notre deuil, et voilà, mais aussi pour demander l'ouverture d'une enquête et la nomination d'un juge d'instruction pour qu'il y ait une enquête impartiale qui soit ouverte et qu'on arrête toujours que cette justice